Alors que le mois octobre rose se poursuit, encourageant le dépistage du cancer du sein, nous allons aujourd'hui parler des cancers précoces, c'est-à-dire les cancers qui touchent une population de moins de 50 ans. Et nous en parlons avec Dr Philippe Deguiral. Bonjour à vous, docteur.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médical, vous exercez à l'hôpital de Tarbes-Lourdes et vous allez nous expliquer de quoi on parle quand on évoque les cancers précoces. Un dossier paru ce mois-ci dans le magazine Science et Avenir parle d'une mystérieuse épidémie et avance des données pour le moins inquiétantes, dont celle-ci, 79,1%. C'est le taux d'augmentation de cancer diagnostiqué chez les adultes de moins de 50 ans entre 1990 et 2019, un taux qui s'appuie sur des données mondiales. Alors, on a envie de vous demander, que se passe-t-il, docteur? Est-ce que ça veut dire que finalement, le cancer n'est pas, comme on le croyait, une maladie vraiment liée au vieillissement? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on ne savait pas, qu'on est en train de découvrir? Quelles observations médicales, scientifiques, vous faites en tant que cancérologue pour affirmer que oui, aujourd'hui, il y a une vraie augmentation des cancers précoces?
Alors, nous, les cancérologues, il ne faut peut-être pas trop nous écouter. Il faut regarder les chiffres et les données qui sont publiées dans la littérature parce que nos impressions, parfois, peuvent être différentes. De la même façon que depuis que je suis cancérologue, ça fait un certain nombre d'années, tous les ans, j'entends les patients me dire « il y a de plus en plus de cancers autour de moi, je vois de plus en plus de cancers ». Le cancer est une maladie de l'adulte âgé, et ça c'est toujours le cas, et la médiane est à peu près au-delà de 60 ans, et ça, ça se modifie pas. On a même des cancers dont la médiane c'est 70 ans, hein, donc c'est pas avant 50 ans. Effectivement, il y a des personnes qui sont diagnostiquées avant 50 ans, et l'étude dont vous parlez, dont se relaie la revue Science et Avenir, en fait elle a déjà 2 ans, et elle est mondiale, avec des données mondiales d'incidence. Donc là, on va définir quand même quelques mots hein, pour que les auditeurs puissent
de quoi on parle,
bien se retrouver.
Oui.
Alors l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas atteints d'une maladie, en l'occurrence le cancer, le plus souvent par an. Et l'idéal, c'est aussi de la rattacher au nombre de la population pour 100 000 personnes. Parce que vous imaginez bien qu'en 20 ans, si la population augmente de 20%, eh ben, inéluctablement, si le taux de cancer ne change pas, on aura 20% de plus de cancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer tous les chiffres. Après, le taux de mortalité, ben, c'est la même chose, mais c'est en mortalité. Et puis, il y a un taux qui est compliqué à expliquer, qui est le taux standardisé, et ça serait le meilleur taux possible. C'est-à-dire que c'est une prouesse statistique pour pouvoir comparer des pays, des régions, des groupes de personnes où on standardise cette population à une population européenne ou mondiale avec les mêmes moyennes d'âge, les mêmes sexes, les mêmes... Et c'est ça qu'on devrait pouvoir faire.
Alors, on devrait pouvoir faire, donc on n'y arrive pas vraiment en fait.
Non, mais même l'incidence. Là, cette étude, elle est mondiale. Et il n'y a pas du tout par centaines de milliers de personnes, cette étude... Et d'ailleurs, elle a été critiquée par les auteurs eux-mêmes. Et puis aujourd'hui, grâce à vous, j'ai pu lire beaucoup de choses pour préparer cette rencontre. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, elle a 2 ans. Et puis, il faut faire très attention aux chiffres parce qu'on entend, il y a des termes de tsunami, d'explosion. Là, on parle d'épidémie. Une épidémie, ça a une connotation, ça a une définition.
Épidémie mystérieuse en plus. Donc, ça veut dire qu'on peut rien expliquer.
Alors, en plus mystérieuse. Déjà, épidémie, c'est quand on a une augmentation importante d'une maladie dans un endroit précis. Et c'est pas forcément le cas. Dans le monde entier, alors, les incidences de cancer en France, on est assez bien doté de différents dossiers, et notamment ce qu'on appelle des registres. Donc, on a le registre des cancers.
C'est-à-dire par catégorie de cancer, c'est ça ?
Exactement, les registres. Alors, souvent, c'est dans des départements, et on essaye d'évaluer dans la France entière. On extrapole à la France entière, c'est à peu près le quart de la population, et on regarde, sur une période de 10, 20, 30 ans, l'évolution du nombre de nouveaux cancers.
Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, ben oui, il y a beaucoup plus de cancers du côlon chez les femmes de moins de 50 ans? C'est un fait, c'est scientifique et c'est comme ça.
Alors, tout d'abord, comme vous l'avez dit, c'est les cancers. Donc, il y a différents types de cancers avec des facteurs de risque très différents. Et si l'on regarde, avant de parler de ceux qui ont de moins de 50 ans, il y a une évolution différente selon le type de cancer et même selon le sexe. selon les hommes et les femmes.
Et comment on l'explique, ça ?
Alors, ça peut s'expliquer de différentes façons. D'abord, l'augmentation, tout simplement, déjà sur le plan démographique, il y a plus d'habitants, donc il y a plus de cancers. Ensuite, il y a un dépistage qui est plus important, et un accès aux soins qui est plus important aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
Cela dit, s'agissant du dépistage, il est proposé en France, et je pense que c'est pareil dans les pays d'Europe, à partir de 50 ans. Il y a d'autres pays dans le monde où le dépistage est proposé plus jeune.
Alors, dans certains pays, et puis il y a des projets, effectivement, alors quand on voit déjà la réussite du dépistage en France, dans le cancer du sein, on doit être entre 5, on a à 50% à peu près, le cancer du côlon, c'est 40%.
C'est-à-dire, vous voulez dire que
il y a 40%
de personnes qui viennent.
Qui viennent, qui répondent à l'invitation qu'on leur propose de faire un test.
Bon, déjà, là, il y a un sujet.
Il y a un sujet. Après, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on peut réfléchir au dépistage. Parce que là aussi, dans le dépistage, il y a deux définitions. Il y a le dépistage organisé. Ça, c'est l'État, c'est les pouvoirs publics. C'est l'invitation qu'on reçoit dès qu'on a 50 ans. Systématique. Quand on n'a pas d'antécédent. Quand on n'a pas d'antécédent. Et puis après, il y a le dépistage individuel, grâce au médecin traitant. On a 40 ans, on a 70 ans, on a des signes, des symptômes qui laissent penser que ça pourrait éventuellement être un cancer. Mmh. Et là, on va faire des examens. Vous imaginez bien que le dépistage en France n'est pas le même au Togo, en Asie ou en Allemagne. Voilà. Donc, et on peut imaginer aussi que le dépistage n'est pas proposé de la même façon il y a 40 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui. Mmh. Donc, ça peut aussi en partie expliquer une augmentation de l'incidence du cancer. Il y a beaucoup sûrement de nos parents et grands-parents qui sont morts de maladies, on ne savait pas que c'était des cancers.
Oui. Donc, vous confirmez que oui, c'est toujours, le cancer est toujours une maladie liée au vieillissement et que, en fait, finalement, si je vous suis, si on se dépistait tous plus tôt, peut-être qu'on pourrait découvrir... potentiellement, on pourrait tous découvrir un cancer ou une maladie un petit peu de ce genre-là.
Alors, ça serait carrément un débat à part entière. Est-il intéressant de diagnostiquer un cancer ? Il y a des cancers où ce n'est pas forcément obligatoirement intéressant.
Pourquoi ?
On peut mourir avec, mais pas à cause d'un cancer. Il y a ce qu'on appelle une notion qu'on pourrait là aussi expliquer, mais il faudrait de nombreuses minutes, le surdiagnostic. On peut dépister des lésions précancéreuses, on peut dépister des petits cancers qui ne voleront pas forcément et qui n'aboutiront pas forcément à la mort. Donc c'est...
Ce que vous dites là peut remettre en cause beaucoup de choses sur notre manière d'appréhender cette maladie quand même.
Oui, mais là c'est pour ça que je dis les maladies.
Oui.
Tout dépend. Vous voyez, allez, une minute. Il y a un dépistage organisé en France pour le cancer du côlon.
Ouais.
D'abord, on se trompe. On devrait dire lésion précancéreuse du côlon, parce qu'on recherche du sang dans les selles. Et le but, c'est de trouver des polypes. C'est pas de trouver un cancer. C'est de trouver des polypes, de les enlever avec une coloscopie lors d'un geste simple et de prévenir le cancer qui serait arrivé si. Mmh. Dans la mammographie, c'est un petit peu différent. Mais je suis persuadé que dans le subconscient du grand public, on parle beaucoup du cancer du sein et on a tout à fait raison d'en parler. Mais est-ce que les gens savent que probablement le dépistage du cancer du côlon a beaucoup plus d'intérêt sur la santé publique que le dépistage du cancer du sein ?
Expliquez-nous ça, pourquoi ?
Eh bien, parce que l'intérêt d'un dépistage organisé, je dis bien organisé, j'insiste, c'est ce qu'on appelait autrefois dépistage de masse, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'antécédents et qui n'ont pas de symptômes. Le but, on est bien d'accord, c'est ce qui est indiqué partout, c'est de diminuer la mortalité par cancer et même au total, de diminuer la mortalité tout court. Mais quand on diagnostique des lésions, ça amène à des examens complémentaires, à des chirurgies, à des traitements qui ont leur propre effet indésirable, qui ont leurs propres complications. Et au final, il faut regarder ce qui se passe au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Donc vous êtes en train de nous dire, docteur Philippe Desguirelles, qu'à force de chercher, on trouve un cancer ou d'autres problèmes que peut-être on n'aurait pas trouvé et qui ne se seraient jamais manifestés.
Alors, c'est possible. C'est possible, mais je
enfin, cela dit, le dépistage et le dépistage systématique qui est proposé à partir de 50 ans, c'est quand même une chance, c'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir avoir ça.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pas proposé dans tous les pays. Et
en tous les cas, en France, on a de la chance de pouvoir avoir ce dépistage proposé. Là, bon, évidemment, on parle beaucoup du cancer du sein en ce mois d'octobre rose. Heureusement quand même qu'il y a tout ça.
Le dépistage est très important. Le moment d'Octobre Rose me paraît important parce qu'il est important de parler du cancer, il est important de parler des malades cancéreux. Voilà, je crois qu'il faut nuancer vraiment l'intérêt propre du dépistage au niveau de la santé publique. Mmh. Mais je suis complètement favorable, et encore plus quand une patiente, une femme, a des symptômes ou autres, de pouvoir organiser tout ce qu'il faut pour dépister. Et puis en France, on a la chance d'avoir des soins de qualité, voilà.
Alors, avant la pause, j'en reviens un petit peu quand même au sujet tout à fait initial. Vous, docteur Philippe Desguiral, dans votre service, vous exercez donc dans l'hôpital Tarbes-Lourdes. Vos patients, les personnes qui viennent vous voir pour être accompagnées, suivies, guéries, elles ont quel âge ? Est-ce que vous observez un changement, une évolution ?
On l'observe dans quelques cancers.
Lesquels ?
Je vais vous répondre tout de suite. Mais qui sont très différents et peut-être avec des causes différentes. Il y a le fameux cancer du pancréas, où là, on observe depuis 20 ans une augmentation régulière, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et d'abord, globalement, tout âge confondu, mais beaucoup qui ont moins de 50 ans.
Et ça, vous pouvez l'expliquer ?
On faut lire la littérature, il y a beaucoup d'hypothèses, probablement liées au mode de vie. Les pesticides sont incriminés, on parle du cadmium dans les métaux lourds qu'on retrouve dans certains aliments et dans l'environnement, la pollution environnementale, la pollution de l'air... C'est vraiment des facteurs de risque dont on parle, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Un autre cancer, qui est vraiment beaucoup plus fréquent, et notamment chez la femme, moi, je suis un vieux cancérologue, maintenant j'ai plus de 60 ans, nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de cancers du poumon chez les non-fumeurs. Le tabac est toujours le principal facteur de risque des cancers.
Aujourd'hui, vous êtes venu vraiment pour casser beaucoup d'a priori ou d'idées.
Je dis bien, le tabac est toujours le facteur de risque principal qui correspond.
Mais vous avez des non-fumeurs qui développent des cancers de poumon.
Et de plus en plus, soit qui ont arrêté de fumer il y a un certain temps, soit qui n'ont jamais fumé. Et dans ce type de cancer, il y a ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire des anomalies en biologie moléculaire, des anomalies dans le génome, dans les gènes, dans les chromosomes des cellules. Et ces anomalies entraînent une activation de l'oncogène, du gène du cancer, de certains gènes. Et on le découvre dans la réalité parce que ça peut entraîner d'ailleurs, et de façon positive, des traitements particuliers spécifiques qu'on appelle des thérapies ciblées. Et là, chez ces personnes, on va leur proposer des comprimés plutôt que de la chimiothérapie par voie veineuse. Et là, on observe une augmentation nette, et ça, c'est au niveau mondial. Et il y a là aussi des hypothèses dans les facteurs de risque, notamment la pollution environnementale. Là. Et je ne parle pas du tabagisme passif. Je parle bien, on incrimine beaucoup les microparticules qui peuvent être à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, dans les usines, mais je parle dans le monde entier. Et le diesel, par exemple, qui a...
Ça veut dire qu'on y est tous exposés, très jeunes, peut-être même déjà quand on est dans le ventre de notre maman, on est tous exposés à ces maladies ou à tout le cas à ces facteurs de risque.
Oui, oui.
Et tout le temps, et partout.
Alors, on fait de plus en plus de recherches sur la biologie moléculaire. On arrive à obtenir des résultats très intéressants pour justement bien identifier les traitements et personnaliser les traitements. Oui. Et peut-être que dans les années qui viennent, on pourra peut-être plus justement prévenir ces cancers, les dépister plus tôt en faisant des analyses moléculaires, par exemple. Ça, c'est un point très positif.
Et nous sommes toujours avec Dr Philippe Desguiral, donc oncologue médical à l'hôpital de Tarbes-Lourdes. Dr Philippe Desguiral, vous nous aviez parlé de plusieurs choses avant cette pause. On va continuer sur les facteurs de risque un petit peu, puisqu'on s'est quitté là-dessus. Toujours dans ce dossier paru dans le magazine Science et Avenir, le docteur Giacomo Cavalli, qui est chercheur à l'Institut de génétique humaine à Montpellier, explique que nos modes de vie ont leurs responsabilités puisqu'ils ont favorisé une déprogrammation épigénétique. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?
C'est un beau mot. Hein.
Oui, c'est un beau mot, mais...
Ça jette hein, quand on dit ça.
Ça en jette, oui, c'est vrai.
Ça en jette et en même temps, ce sont surtout des hypothèses ou du moins un phénomène, mais qui est difficile pour un cancer précis à mettre en évidence. Tout à l'heure, on a terminé notre première séquence par le cancer du poumon.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle dans les gènes, des gènes suppresseurs. Ils sont oncogènes dans le sens où si ces gènes suppresseurs sont activés, désactivés, mm-hmm. c'est-à-dire que si d'un seul coup il y a une mutation dans ces gènes et qu'ils ne sont plus actifs, eh bien comme leur rôle c'est de maintenir la cellule dans une certaine normalité, eh bien la cellule va devenir précancéreuse et cancéreuse. Et jusqu'à présent, et on le dit encore, mais on pensait que les cancers, par définition, puisque les cancers surviennent chez des gens plutôt âgés, donc il y avait dans la vie de tous les jours et dans toute une vie entière, au fur et à mesure des années, eh bien on peut avoir des mutations et des anomalies sur ces gènes. Mais il peut y avoir des phénomènes qui vont intervenir plus tôt.
Et qui vont donc aggraver.
Et qui vont donc entraîner une incidence de ces cancers beaucoup plus jeunes.
Donc des facteurs de risque, en fait, qui se multiplient, ça fait un petit peu effet boule de neige.
Voilà, quoi. Et c'est souvent multifactoriel. On dit toujours que le cancer est multifactoriel. Alors, c'est ça la définition aussi de facteur de risque. Parfois, dans les articles, même de bonne presse, on parle de cause. Non, il ne faut pas dire cause, il faut dire facteur de risque. Dans le cancer du poumon, le tabac, c'est presque une cause, mais on va dire que c'est un facteur de risque. La preuve, vous avez des gens qui fument qui n'ont pas de cancer, et on a vu tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne fument pas et qui ont des cancers. Mais c'est une question de statistique. Voilà. Et en tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que presque 40% des cancers ont des facteurs de risque identifiés. Et que...
Ça veut dire qu'on peut les éviter. Ou du moins...
En partie, oui.
Ça, c'est de la prévention, du coup. On ne parle pas de dépistage, là, on parle de prévention.
C'est ça. On pourrait éventuellement, je parlais tout à l'heure des pouvoirs publics, de l'État, peut-être investir beaucoup plus là-dedans. Si on diminue le tabagisme, on va diminuer le risque de cancer du poumon.
Mais on n'est pas tous égaux par rapport à ces facteurs de risque.
Mais regardez, les cancers du poumon chez l'homme diminuent. Chez l'homme, hein. Pas chez la femme. Le cancer du poumon diminue parce qu'il y a une diminution du tabagisme en France, chez l'homme. Donc, on voit bien que, est-ce que c'est les campagnes de prévention qui ont agi ? Je ne sais pas. En tout cas, une dénormalisation peut-être dans notre société de la personne qui fume.
Oui.
On est moins bien considéré peut-être. Mm-hmm. Voilà. Et chez la femme, le tabagisme important a été décalé de nombreuses années. Et on voit en France, en Europe, ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 20 ans, c'est-à-dire une augmentation des cancers du poumon chez les femmes fumeuses. Et si d'autres facteurs de risque, l'alcool, alors parfois les deux sont imbriqués, tout ça c'est des facteurs de risque qu'on dit exogènes, extérieurs en tout cas. Voilà. Chez la femme, dans le cancer du sein, alors je vais prononcer des facteurs de risque, mais je ne vais pas annoncer leur portée, leur importance, on va dire. Hein.
Oui.
Mais par exemple, on sait que l'absence d'allaitement est un facteur de risque. La grossesse tardive est un facteur de risque. C'est un mode de vie. Je ne dis pas aux dames, il faut absolument allaiter.
Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui n'ont pas allaité vont avoir un cancer du sein.
Bien entendu. Je répète, ce sont des facteurs de risque qu'on voit sur des grandes populations.
Ouais.
Mais on sait aussi, dans le débat actuel, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens.
Ouais.
C'est un nom qu'on entend. Et puis, on parle beaucoup de pollution environnementale. On parle de microplastiques qu'on retrouve dans... plein d'endroits et même peut-être d'aliments. Il y a des études, même dans le corps humain, on peut en retrouver. Bon, ça peut avoir un caractère hormonal.
Et ça peut déclencher ou être un facteur de risque pour tous les cancers. Est-ce qu'il y a des cancers qui sont plus sensibles à ces facteurs-là que vous décrivez, notamment sur l'environnement ou...
Le cancer du sein, je pense que c'est hormonal. Donc, peut-être même que... il y a des cancérologues et des chercheurs qui actuellement émettent des hypothèses même sur l'embryogenèse. C'est-à-dire que la femme enceinte... vit dans un contexte de pollution environnementale ou d'autres, et le bébé qui va naître, peut-être, aura plus de facteurs de risque de faire un cancer plus tard en fonction de cela. Mais là, ce sont des hypothèses que je donne et on n'a aucune certitude dans un domaine très précis.
Alors, comment, quand on n'a pas de certitude, on met en place de la prévention, justement?
Je pense qu'aujourd'hui, la prévention, il faut qu'elle soit à fond sur le tabac et l'alcool. Ça, c'est...
Mais ça ne suffira pas de toute façon,
non,
puisque vous nous parlez de problèmes environnementaux aussi, etc.
Oui, mais aujourd'hui, quand j'ai dit qu'on a de plus en plus de cancers du poumon chez les non-fumeurs, c'est quand même 80% sont fumeurs. Hein? Et donc, 20% sont non-fumeurs, et dans les non-fumeurs, peut-être qu'il y en a qui ont eu du tabagisme passif ou autre. Donc, il faut beaucoup, beaucoup s'intéresser aux non-fumeurs qui ont un cancer du poumon, parce que quand même, de toute façon, il faut s'intéresser à toutes les personnes atteintes de maladies. Mais ça n'empêche que les patients qui fument ont un très gros risque de faire des maladies graves.
On peut échapper au cancer aujourd'hui ?
Par volonté, par... C'est ça?
Oui.
Je parle de facteurs de risque. Donc, bien entendu, quand on ne grille pas les feux rouges et quand on met la ceinture de sécurité, on a moins de risque d'avoir un accident, mais on peut en avoir un quand même. Mais on a moins de risque. Tout est question de risque. Il y a aujourd'hui des personnes de 65 ans qui ont différents cancers et qui mangent bio toute l'année et qui ne fument pas, ne boivent pas d'alcool. Mais ça n'empêche que si on est en rapport avec tous ces facteurs de risque, eh ben, le risque augmente. Donc voilà.
Quid de l'évolution des traitements et des moyens mis en place pour soigner
ces... Alors, c'est très très important. Et je fais une première parenthèse vite, rapide, oui. Madame Jankovic. Il y a un domaine que je n'ai pas abordé, c'est les facteurs sociodémographiques. C'est extrêmement important. Et ça, il y a des personnes qui font beaucoup de recherches là-dessus, et le professeur Delpierre à Toulouse est vraiment très en avance. Quand on parlait de cancer précoce, ce qui augmente, c'est justement dans des catégories sociales qui sont favorisées et pas défavorisées. Donc, qui sont peut-être plus en lien avec tous les facteurs environnementaux d'une vie, avec des facteurs hormonaux et autres. Mais dans le cancer en général, on voit bien que si on est avec des conditions sociales défavorisées, on va moins participer au dépistage, on va avoir plus de facteurs de risque tels que le tabac, la malbouffe, l'obésité, la sédentarité. Et donc, indirectement, j'allais dire que la pauvreté est un facteur de risque. C'est terrible que je suis en train de dire.
Ouais.
Mais je parle toujours de facteurs de risque et de statistiques. Et ça, c'est très important. Et puis, je n'ai pas parlé aussi d'un autre domaine, c'est qu'on va peut-être consulter moins facilement et moins rapidement.
Comment vous l'expliquez, ça ? Une peur de rentrer dans un processus de soins qui va coûter cher, qui va être lourd, qu'on ne va pas pouvoir porter parce que peut-être on est un peu isolé ?
Je pense qu'il y a un côté culturel. Et puis, vous voyez bien, actuellement, quand on voit la démographie médicale qui est quand même en berne, on aura beaucoup plus peut-être de facilité dans notre réseau amical, familial, de connaître un médecin ou connaître quelqu'un qui connaît pour avoir des rendez-vous plus rapides.
C'est terrible ce que vous nous dites, parce que vous nous dites sans réseau, en fait, on a moins de chances de s'en sortir.
Non,
d'être
pas
soigné.
De s'en sortir, mais je pense que nos auditeurs, ils savent très bien que pour avoir un rendez-vous, parfois, il faut passer par différents réseaux, mécanismes, voilà.
Et tout le monde n'en a pas.
Et on peut penser que quand on a une condition sociale plus élevée, il y a peut-être plus de facilité. Je pense que c'est une réalité.
C'était la première parenthèse, vous avez dit première parenthèse,
oui,
la deuxième, il nous reste 3 minutes.
Elle a duré longtemps, et c'était pour... la guérison, enfin, les progrès pour les cancers.
Ouais.
Et il y a une notion que ne sait pas forcément le grand public. Le plus important, globalement dans le traitement des cancers, c'est la chirurgie. C'est pas forcément les traitements médicaux. C'est très beau les traitements médicaux, il y a une industrie pharmaceutique qui est très importante et il faut qu'elle existe et on doit avoir des nouveaux traitements.
Vous parliez d'hormonothérapie tout à l'heure.
C'est autre chose.
C'est autre chose, ça suffit pas.
L'hormonothérapie, ça peut être un médicament, mais
Ça remplace pas.
Non. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est-à-dire que si on investit dans un nouveau pays, on va dans un pays qui a pas de structure médicale très importante, ben la première chose à faire, c'est la chirurgie, c'est d'apporter des chirurgiens qui opèrent très bien. Et les traitements médicaux sont, ça c'est de façon globale, hein, ce que je suis en train de dire, sont en plus. C'est sûr qu'il y a des maladies hématologiques, les leucémies, ça se traite pas par chirurgie, ça se traite essentiellement par médicaments. Les tumeurs germinales, les cancers du testicule, ça se traite un peu par chirurgie et beaucoup par médicaments. Mais la grande majorité des cancers, le moment le principal et le plus important, c'est la chirurgie. Et on parle toujours des médicaments, mais la chirurgie a fait d'énormes progrès. Mmh. Et c'est vraiment un point très positif dans le traitement des cancers.
Ma dernière question, docteur Philippe Deguiral, on a assez de soignants, d'oncologues, de cancérologues en France pour soigner, accompagner les personnes qui souffrent de cancer, quels que soient les cancers?
Je vais parler d'une autre population que vous n'avez pas citée, c'est les médecins généralistes. C'est la pierre angulaire. Donc, pour pouvoir évoquer, rencontrer quelqu'un, parler de maladie, il faut d'abord le médecin généraliste. Mais non, il manque des soignants, c'est certain. Oui.
Merci, docteur Philippe Deguiral. Je rappelle que vous êtes oncologue médical et que vous exercez à l'hôpital de Tarbes-Lourdes. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic.